France Culture.
À voix nue, cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Yasmina Reza, figure importante du monde des arts depuis un quart de siècle et jouée dans le monde entier. Couronnée par un Molière de l'auteur en 1987, dès sa première pièce, Conversation après un enterrement, elle triomphe quelques années plus tard avec Art et devient le premier auteur non anglo-saxon distingué par un prestigieux Tony Award. En 2010, Le Dieu du Carnage lui vaut un nouveau Tony Award et une adaptation cinématographique signée Roman Polanski. Cette série d'avoués nus lève le voile sur une artiste qui se prête très peu à l'exercice de l'entretien et c'est d'ailleurs le sujet de sa dernière pièce, Comment vous raconter la partie. Troisième entretien, pause, silence, un temps.
Continuons cette série d'avoués nus, Yasmina Reza, en interrogeant aujourd'hui peut-être les différentes formes d'écriture, les différentes formes d'art que vous explorez. On vous connaît depuis longtemps comme auteur de théâtre, de nouvelles, de romans. On vous a récemment découvert cinéaste. On ne vous avait connu qu'une seule fois, je crois, scénariste auparavant. Nous en reparlerons. Si on reprend dans l'ordre, avec un succès alors immédiat en 87 avec Conversation après l'enterrement, immédiat dès que la pièce a été jouée, mais on l'a évoqué précédemment, mais j'aimerais qu'on s'y arrête un petit peu. Vous avez quand même attendu le bon moment, la bonne conjonction pour que cette pièce soit effectivement montée. Il fallait réunir quoi finalement pour ne pas rater ce moment-là ?
Je pense que la chose essentielle, ce sont les bons acteurs. Des acteurs adéquats, des acteurs qui sont idéaux pour chaque rôle. Ça, c'est pas évident, parce que quand vous avez des pièces chorales, il suffit que deux d'entre eux sur trois soient bons et le troisième moins bon. Il y a une sorte de déséquilibre qui se fait et ça ne marche plus. Ça, je pense que les jeunes auteurs ne le savent pas, en général. Ils n'ont pas assez expérimenté le théâtre pour savoir qu'un acteur peut être quelqu'un qui magnifie ou qui détruit. Il faut un bon metteur en scène, et pas quand je dis un bon metteur en scène, il faut le metteur en scène idéal, à vrai dire, ce qui est très loin d'être toujours le cas, si on peut attendre et si ça peut se faire, tant mieux. Et une fois qu'on a dit ça, il faut aussi le bon lieu. Un lieu peut détruire aussi une pièce. Donc, moi, je savais pour ma première pièce qu'il fallait tout ça. Et c'était incroyablement prétentieux de penser que ça pourrait arriver, avec le recul. C'était ma première pièce, j'étais inconnue, il n'y avait aucune raison que de grands acteurs me prêtent attention, qu'un grand metteur en scène me prête attention. Mais quand même, j'y croyais et je voulais pas prendre le risque d'un truc déceptif ou d'un spectacle raté qui je savais, aurait été très préjudiciable à la fois pour moi, pour l'avenir, pour la pièce. Donc je préférais, franchement, qu'elle soit pas montée.
Mais on en reparlera, mais pour le coup, vous avez fonctionné contre nature, vous n'aimez pas attendre, et là, vous avez attendu.
Oui. J'aime pas attendre, mais ça veut pas dire que je sais pas attendre.
J'avais une bonne raison d'attendre, là, en tout cas.
Souvent, j'attends, malheureusement. Je déteste attendre, mais le plus souvent, j'attends, parce que tout est si lent. Et je ne vais pas sacrifier à mon goût de l'impatience. Enfin, en fait, je n'ai pas de goût de l'impatience. C'est idiot. À mon impatience, mon dégoût pour l'attente. Parce que par-dessus mon impatience, il y a ce que je veux. Et ce que je veux, je ne vais pas le sacrifier.
Il y a ce succès dont on a parlé de Conversation après un enterrement. Succès, le mot est... peut-être sans importance, succès en tout cas de cette réussite-là. On a évoqué ce choc qui a quasiment été le vôtre en découvrant la pièce jouée. Avant Art, en 1994, il y a La traversée de l'hiver, toujours mise en scène par Patrice Kerbra, et je dois vous faire cet aveu, Yasmina Reza, je ne connais pas cette pièce, donc j'aimerais bien que vous m'en disiez quelque chose, mais au-delà d'elle, faire cette deuxième pièce, après la première, oui, je dis une banalité, mais il y avait un enjeu quand même particulier. Comment, quel souvenir vous en gardez de cette écriture-là et de cette production-là?
Alors, elle a été créée à Orléans, ensuite reprise à La Colline. C'était une très belle mise en scène aussi de Patrice. Il y avait très bons acteurs dedans. Et moi, je pense que ce spectacle était une réussite. Ce qui était plus curieux avec cette pièce pour moi, c'est que... difficile de dire, parce qu'elle était... Il y a beaucoup de gens qui me disent, encore aujourd'hui, que c'est ma plus belle pièce. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment profondément, qui pensent que j'ai jamais écrit aussi près de moi, de mes origines, que les personnages, je suis sûre, sont très beaux. Il y a un personnage que j'aime beaucoup et que j'aimerais un jour réécrire une scène de cette nature. Il y a un personnage qui ressemble beaucoup qui a été, à mon avis, l'enfant de mes lectures russes. Il y a une scène d'humiliation. C'est pas facile à faire, une scène d'humiliation. Et je crois que j'avais bien réussi dans cette pièce à le faire. Même moi, quand je le voyais sur scène, ça finissait par m'émouvoir, alors que je l'avais écrit. Donc il y avait des qualités, mais il y avait deux choses. D'abord, il y avait un rôle très difficile à distribuer. Un rôle d'un homme de 65, sexy, en short, puisque ça se passait à la montagne et qui revenait de balade. Et c'était très juif. Et c'était très difficile de trouver l'acteur pour le faire. Dans tous les pays. Parce que il y avait énormément de, le caractère du personnage, son physique, c'était pas simple de distribuer ce rôle. Donc, cette difficulté a fait que cette pièce a été moins montée de par le monde. Et puis aussi, j'ai toujours exploré, moi, des formes nouvelles. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment que cette pièce n'explorait rien de ce côté-là. Ça, c'est le côté négatif pour moi de cette pièce. C'est-à-dire que Conversation était déjà relativement classique, mais à ce prix-là, La traversée de l'hiver l'était encore plus. Et moi, j'ai eu comme une sorte de rejet pour ça. Je me suis dit non. Si tu vas pas continuer à écrire des gentilles petites pièces classiques sur ce format-là, ça n'a pas de sens. C'est l'aventure de l'écriture, c'est l'aventure du format, c'est l'aventure de la construction, du style, de la. Moi, je me suis toujours perçue un peu comme un peintre. C'est étrange ça. Par exemple, ou un peintre ou un photographe qui cherche dans la forme, parce que le fond, je n'ai jamais douté de l'avoir. On cherche pas dans le fond on l'a, le style même de la matière pure on l'a ou on l'a pas. C'est pas une chose qu'on peut chercher, mais la forme oui, la forme elle est, c'est une recherche à vie la forme, comme les peintres. C'est pourquoi ensuite, donc ça a bien marché, La traversée de l'hiver, j'ai eu de belles critiques, ça n'a pas été le succès de Conversation parce qu'on était dans un contexte différent, mais j'ai écrit L'homme du hasard, qui est dans une forme extrêmement différente et beaucoup plus inaccessible, parce que c'était deux monologues qui finissaient par s'entrecroiser. Et là, impossible de la monter. Tout le monde me disait non. Et je suis passée, c'est intéressant de le dire, parce que en un an, de quelqu'un qui était fêté, estimé, et qu'on estimait prometteur, à quelqu'un qui était refusé, mais littéralement partout. Il n'y a pas eu un seul théâtre qui a accepté L'homme du hasard, et ça a duré des années. Je me suis retrouvée sans rien, et sans plus personne me connaissant, ni même m'estimant, ni rien. Et j'étais malheureuse. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme j'avais joué avec les trois garçons, qui étaient Arditi, Lucchini et Vanek, j'avais joué avec les trois comme actrice, et qu'eux étaient en haut de l'affiche. Je dis tiens, pour m'amuser, pour me sortir de ce marasme, je payais même pas d'impôts tellement je gagnais pas d'argent. Je vais écrire un truc commercial pour eux. Pas un truc commercial en tant qu'écriture. L'écriture, je pensais être moi-même, mais avec eux, ça prendrait une allure commerciale. Et je leur ai dit, j'aurais téléphoné, je leur ai dit, ça vous amuserait que j'écrive une pièce pour vous. Et ils m'ont dit, oui, bon, fais ce que tu veux, ma chérie. En se disant chacun, bon, elle le fera pas, ou de toute façon, bon. Et donc je l'ai fait, en pensant à eux. Et le fait de penser à eux, non pas nommément, parce que ils m'influençaient pas physiquement, et c'était pas eux-mêmes, je m'inspirais pas d'eux-mêmes dans leur personnage, mais je savais que eux le joueraient, c'est-à-dire, une chose très importante, aucun ne supporterait d'avoir un rôle plus petit que l'autre. C'est ça qui m'habitait. Donc je me suis mis à écrire, et dès que j'écrivais pas assez pour un des caractères, il fallait lui redonner du texte, d'où le grand monologue des belles-mères au milieu, pour le personnage d'Ivan, qui n'arrivait que 15 pages après les autres. Je me suis dit, comment je vais rétablir la balance? Donc vite, un gros truc, vite 3 pages, il y a que lui qui parle. Donc voilà comment j'ai écrit cette pièce, dans un souci, mais constant, d'équilibre. Et pas du tout dans le génie, c'est juste un équilibre d'épicier, avec des poids. Le poids des mots. Et je leur ai donné. Et voilà. Et après, bon, on peut, je sais pas si c'est tout de suite que vous voulez qu'on parle d'art, mais je veux dire par là que l'homme du hasard n'a pas pu se monter. Donc, j'ai écrit art, et c'est, ce n'est qu'après que j'ai pu faire jouer l'homme du hasard.
À vous entendre, Yasmina Reza, et pour des bonnes et moins bonnes raisons, on a le sentiment qu'un nouveau texte s'écrit en réaction au précédent. Oui, moins bonne, c'est effectivement quand vous êtes au fond du trou, effectivement, aller écrire pour 3 acteurs en haut de l'affiche, mais effectivement une pièce qui a connu le succès qu'on sait, mais en réaction vraiment, en disant, voilà, j'ai envie d'aller ailleurs à chaque fois.
Je pense que tout ce que j'ai écrit dans ma vie est en réaction. Pas forcément en réaction à la pièce précédente ou à l'œuvre précédente, en réaction à la vie. Voilà. Tout ce que j'ai écrit l'a été en réaction à la vie, en réaction à l'enfance, en réaction à ma tristesse, en réaction à ma déception, en réaction à... Je ne peux pas mieux définir. C'est le principe même de l'écriture.
Pour rester encore un moment dans le théâtre, avant d'aborder d'autres formes, j'aimerais qu'on parle des didascalies, ces indications qu'un auteur écrit en marge des dialogues. Voilà. Alors on sait par exemple que Samuel Beckett, c'est l'orthodoxie, il faut faire comme ça et c'est pas autrement, et c'est extrêmement précis. Comment est-ce que vous envisagez, vous, les didascalies? Parce qu'on a le sentiment, si on regarde la dernière pièce en date, comment vous racontez la partie? Très grande latitude laissée au metteur en scène. C'est quelque chose une sensibilité qui a à faire de chacun.
C'est intéressant parce que quand on regarde comment j'ai écrit, au fur et à mesure des pièces, les didascalies disparaissent. Il y en a de moins en moins. Il n'y en avait déjà pas beaucoup dans Conversation, mais enfin, il y en avait plus nettement quand même qu'aujourd'hui. Ben, j'ai tout épuré, en réalité. Je me fais confiance. C'est idiot, la didascalie. Elle devrait même... La seule didascalie que j'ai du mal encore à enlever, et d'ailleurs, j'en ai mis peut-être plus dans « Comment vous racontez la partie » que dans « Le dieu du carnage », c'est... Il n'y en a qu'une seule. Ça, elle prend plusieurs... j'ai utilisé plusieurs mots pour ça, mais c'est la même. C'est « pause »,« silence » ou « un temps ». Je connais la différence intuitive entre les trois, mais je ne saurais pas l'expliquer. Mais en tout cas, c'est les moments de silence. Je reste encore dans la terreur qu'on les oublie. Et d'ailleurs, souvent, en exergue, et d'ailleurs c'était le cas dans « Comment vous racontez la partie », ne pas oublier les indispensables silences et temps qui ne sont pas toujours indiqués. Je pense que j'ai mis ça sur la moitié de mes pièces. Car c'est mon obsession, qu'on garde les temps, qu'on garde le silence... Mais le reste des didascalies sont sans importance, en fait. Mais donc, comment vous racontez la partie, c'est amusant parce que je les ai liées quasiment au texte. Donc, je mets des didascalies presque drôles. Par exemple, il y en a une, je crois, où j'écris un moment de gêne n'est pas mauvais.
Oui.
Et je crois que je vais aller vers ça, vers ce genre de didascalie un peu à la fois légère et qui est juste un petit guide comme ça, sympathique.
Et en même temps presque énigmatique, parce
qu'effectivement,
un moment de gêne n'est pas...
N'est pas mauvais.
N'est pas mauvais. On a hâte de voir comment
ça
sera interprété.
Veut dire, ça veut dire, je dis au metteur en scène, s'il y a de l'embarras et qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est super.
Alors, si on reste sur les formes, Amer Clavier, c'est un recueil de courts textes que vous publiez en 1997. Écrire dans cette forme-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut cette forme parce que le théâtre ne permet pas de dire certaines choses?
Alors, c'est très intéressant l'histoire d'Amer Clavier, parce que si vous regardez les dates, Art paraît en 94, enfin, est joué en 94, et il ne se passe rien dans ma vie, enfin, dans ma vie publique, entre 94 et 97. Art m'assassine. C'est-à-dire,
Art m'a tué.
Art m'a tué. Dans succès considérable, dans tous les pays, prix, triomphe à Broadway, enfin, je le dis pas du tout comme une vantardise ici, hein, je le dis comme quelque chose qui m'a tué.
C'est-à-dire. Premier auteur non anglo-saxon qui a un Tony Award, il y a eu un Laurence Olivier Award, c'est pareil,
aussi,
c'est la
avant,
même chose,
ouais,
même cas de figure en Angleterre.
Oui.
Bon.
Ça
un peu. Hein.
Honnêtement, ça a raflé tous les prix possibles dans le monde.
Oui.
Donc c'est un succès énorme, hein. Vraiment, c'est pas un tout petit truc, c'est énorme. Et ça m'a beaucoup altérée, parce que, d'abord, ça m'a altérée pour plein de raisons. J'y ai pas trouvé la joie que j'espérais. J'y ai pas trouvé le soulagement de l'ego que j'espérais. J'y ai rien trouvé de cet ordre. Je n'y ai pas trouvé, pardon, la guérison.
Tout pour s'en garder, ça me fait penser, quand vous dites ça, à Yannick Noah le lendemain de sa victoire à Roland-Garros, qui commence une dépression, parce qu'effectivement, gagner Roland-Garros, ça ne change rien.
J'ai un peu ressenti ça. Ça a changé, enfin, pas rien, mais
au fond de soi.
Voilà, au fond de soi, il n'y avait pas à l'arrivée, ça ne réchauffait pas vraiment. C'était vain. Il y avait une très forte vanité qui était la plus forte. Alors ça a changé ma vie matérielle quand même. Et ça a changé quelque chose de fondamental, mais dont je ne me suis pas rendu compte tout à fait sur le moment, c'est que ça a changé ma liberté. J'ai acquis une liberté à ce moment-là. Mais c'est difficile de se dire, à ce moment-là, on acquiert une liberté. Parce qu'on se sent au contraire très prisonnier, on vous oblige à faire ci, à faire ça. J'ai dit non à tout, hein, tout. Mais dire non, ça pèse. C'est pas léger de dire non. J'ai eu des propositions incroyables, d'écrire des scénarios, la télé qui venait avec le chéquier, les invitations qui pleuvaient dans le monde entier, des propositions d'écriture dans le monde entier. C'était énorme ce qui me revenait, mais rien de vraiment intéressant en même temps. Hein. Faut pas se dire les propositions intéressantes pleuvaient. La plupart étaient inadéquates par rapport à moi, parce que le succès, une des choses étonnantes du succès, c'est que c'est un énorme malentendu. Ça, on l'apprend tout de suite. C'est que pour un compliment qui vous fait plaisir, il y en a 20 qui vous tuent. Vous rencontrez des gens qui vous disent « j'adore votre pièce » et c'est des gens avec qui vous ne pourriez pas passer 5 minutes. Donc vous comprenez immédiatement que tout ça est extraordinairement complexe, frelaté, pas décisif. Mais surtout, ce que vous apprenez, que je savais avant, mais qui a été évidemment confirmé, c'est que ça n'aide en rien pour la suite de l'écriture. C'est-à-dire que ça ne vous renseigne pas. Ça ne remplace jamais un seul lecteur qui va dire voilà, j'ai éprouvé ça, j'ai donc je me suis retrouvée après à devoir écrire autre chose et terriblement alourdie par la puissance de Art, et je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Et au fur et à mesure, pendant ce temps-là, en attendant, mon père était mort, et j'avais écrit des petites chroniques de tiroir sur lui, j'écrivais des petites chroniques sur mes enfants. En fait, je les photographiais. C'est des gens que je ne photographiais pas, et j'écrivais des photos écrites, pour dire les choses autrement, et je les mettais dans mes tiroirs. Et j'avais une relation qui était très privilégiée avec mon éditeur de l'époque, qui était Richard Ducousset. Et un jour, je lui ai fait lire ces textes de tiroir. Il y en avait une quinzaine. Très privé. Et il a été très touché par ces textes. Et il n'a eu de cesse de vouloir les publier. Et il a mis longtemps à me convaincre. Très longtemps. Et c'est pour ça que, à cause de lui, pour lui faire plaisir, j'ai accepté de les faire publier. Et ça a été la publication que j'ai faite après Art. Et en même temps, ça m'a sauvée parce que j'ai rétabli la balance. Après cet énorme succès de Art, sortait un livre très intime, qui s'est vendu très peu. Je crois qu'on a fait 10-12 000 exemplaires, ce qui est beaucoup par rapport à certains livres qui sont même peut-être fantastiques, mais qui se vendent très peu. C'est difficile, un livre. Hein, mais qui, par rapport à moi et au succès de la pièce précédente, était peu. Mais les gens se le prêtaient, j'ai eu des retours merveilleux. Finalement, je me suis beaucoup plus reconnue dans la façon dans les retours de Hammer Clavier que dans les retours de Art. Donc ça m'a restabilisée complètement.
Et ça aurait plu à votre père, vous avez eu le prix de la nouvelle de l'Académie française. C'est quand même pas rien
oui,
non plus
mon
aussi.
Mon père aurait adoré.
Il aurait adoré ça. Et puis après, étape supplémentaire encore, Yasmina Reza avec La Désolation, le roman. Alors là aussi, dans la série des malentendus, on vous a souvent dit, oui, en fait, c'est un monologue de théâtre, alors que, enfin, il suffit de le lire un peu sérieusement. Il me semble que c'est quand même un roman-roman, ce livre-là.
C'est un roman-roman. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de propositions d'acteurs pour le faire au théâtre. J'ai jamais accepté. Dans tous les pays. J'ai jamais voulu. Mais là aussi, il y a une autre forme de malentendu. C'est-à-dire, tout à coup, ce roman se retrouvait sur toute la liste des prix de la rentrée. Et jusqu'au moment où j'ai compris que je risquais d'avoir un prix.
La malédiction était toujours en cours et possible.
Et notamment, je me suis retrouvée dans la dernière liste du Goncourt, dans les quatre restants du Goncourt. Et là, j'ai fait savoir à voix haute et par voix officielle que je ne le voulais pas. Parce que là, ça m'aurait, alors là, achevé. Si Art m'avait tué, un Goncourt pour un premier roman m'aurait achevé. C'était pas possible. Et Dieu merci. D'ailleurs, c'était un très bon livre de Deschenaux qu'il a eu.
Et le vieillard déçu mais rebelle de La Désolation, c'était encore un autoportrait, Yasmina Reza ?
Non, c'était un portrait c'était matinée d'homme de ma famille que je connaissais.
L'écriture cinéma aussi intervient pour ce film Le Pique-Nique de Lulu Crutz, réalisé par Didier Martini. C'est un film qui est sorti en 2000. Quel type d'expérience c'est pour vous à ce moment-là ?
C'est une expérience qui n'a pas tellement de valeur en soi, parce que c'était vraiment travailler avec Didier qui était bien et qui m'intéressait moi. Voilà, j'avais envie que c'était un film sur la montagne, c'était un film où je m'étais beaucoup inspirée de certaines personnes que lui connaissait. Enfin, c'était pour lui. Après, j'ai eu d'autres propositions de cinéma, mais ça m'intéressait pas. C'était vraiment d'écrire pour lui qui m'intéressait. J'aime beaucoup le film, j'ai énormément aimé cette expérience-là à ce moment-là, mais je ne peux pas la généraliser, je ne peux pas me dire « j'ai envie d'écrire pour le cinéma ». Ce n'était pas vrai.
Et parce qu'il a fallu attendre longtemps, Yasmina Reza, pour revenir au cinéma. On en parlera par ailleurs, mais effectivement, là, on voit alors les nouvelles, romans, scénarios. Il y a toujours le retour au théâtre.
Oui, je pense que c'est quand même... Je me vois mal abandonner le théâtre. Je peux pas, je crois.
Mais dans le pays de la langue, ce serait quand même encore plus votre pays, celui du théâtre.
Oui, parce que le théâtre, c'est sec, c'est pur, ça voyage. On n'est pas beaucoup, en plus, à écrire du théâtre. C'est un lieu privilégié, le théâtre. Ça ne peut pas disparaître, le théâtre. C'est antique. Donc je me vois mal ne pas y retourner.
Et à vous écouter, Yasmina Reza, peut-être que certains hurleront, et je n'en doute pas à m'entendre dire cela, mais je pense à ce voyage entre différentes formes, le théâtre, le roman, le cinéma, et ces allers-retours. Et moi, je pense à Marguerite Duras, en vous écoutant aussi. Est-ce que... quelque chose qui fait écho en vous, ce que je dis là.
Mais moi, je suis très contente que vous pensiez à Marguerite Duras. Je suis seule dans mon entourage à penser ça, que je dois quelque chose à Marguerite Duras, qui, je ne comprends pas pourquoi maintenant, est passée de mode pour certaines personnes. Il faut dire que le personnage est contrasté et parfois difficile. Mais moi, j'aime beaucoup Marguerite Duras, en ce sens que ce n'est pas tellement ses livres que j'aime, c'est elle. Et je pense que Marguerite Duras a apporté, en tout cas pour moi, moi je le ressens et je le revendiquerai toujours, elle a été un des grands précurseurs du silence dans la langue. Marguerite Duras a inventé pour moi, dans la langue française en tout cas, le silence. C'est une chose que je pense complètement et je lui dois ça. Et rien que pour ça, je porte en moi quelque chose de Marguerite Duras. Je suis une petite héritière à ma façon. Peut-être qu'elle détesterait ce que je fais. On n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer ni rien. Mais ça n'a pas d'importance. Je sais que je lui dois quelque chose.
Du coup, je pense au fait qu'elle est maintenant dans la Pléiade, Marguerite Duras. Alors, ce qui me permet de vous demander si vous pensez parfois à la postérité.
Mais non, pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. Je m'en fiche éperdument.
Mais si toutefois, un djinn, une fée, venait vous voir et vous disait « Il y a une œuvre de toi, Yasmina, qui pourra passer le temps », vous choisiriez laquelle ?
Ah, je choisirais laquelle ? Oh là là ! C'est très difficile comme question. Là, il faudrait que je me concentre pour... Il y a sûrement une réponse, mais...
Il n'y en a pas d'évidente, en tout cas. Il n'y a pas un texte qui, pour vous, est plus cher.
Mais parce qu'aujourd'hui, je pourrais répondre quelque chose et demain, le contraire. Je sais ce que j'éliminerais. Par exemple, je ne dirais sûrement pas art. Je ne dirais même pas le dieu du carnage. Ces deux-là, je les éliminerais. Mais je... Peut-être la luge d'Arthur Schopenhauer ou les... Non, je sais pas. Non, franchement, je... C'est très difficile comme... Mais je crois pas que ça existera.
Ah, vous n'en
Alors, il y a
rien,
quand même
ça.
Une chose que j'aimerais, si, qui n'a rien à voir avec la postérité, hein, mais j'aimerais que ça dure un peu du temps de la vie de mes enfants. Je n'aimerais pas que mes enfants me voient péricliter. Pour eux, ça leur ferait de la peine. Donc, je... Voilà. Mais sinon, au-delà, je serai poussière, je m'en fous.
C'était À voix nue, Arnaud Laporte s'entretenait avec Yasmina Reza. Prise de son, Michel Mestre. Réalisation, Viviane Noël. Demain, le manque de l'autre en sa présence.